La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard, on parle. Voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Salut, Jean-Marc Parent.
Hey, toi, t'as connu ça. Bon, merci.
Hey, moi, j'ai connu ça. Hé là là.
Ça poignait-tu?
On flashait nos lumières. Hey, t'as souviens-tu quand il disait « OK, à soir, on défonce? » Parce que là, ce qu'il faisait, c'est que son show finissait à une certaine heure. Puis il disait « Non, non, nous autres, on va continuer sur le bulletin après. Là. Non, on continue. » Là. Tu ne voulais pas aller aux pauses publicitaires. T'allais au Centre Bell. Tu payais pour un show d'une heure et demie. Ça durait 7 heures. Puis il payait la pizza à tout le monde en sortant. C'était la démesure d'une autre époque.
Ouais, puis nous, on pensait, tu sais, à la TV, c'était arrangé, là, tu sais, il pouvait défoncer, mais on avait tellement l'impression, c'était quand même bien joué, ça, qu'il était rebelle, puis que lui, il garde le parterre-lève, puis en way go.
Tu sais, c'est à la mairie de Valleyfield, c'est à la rue d'Homer, c'est le monde flash leur lumière le lundi soir, ça te donne une idée?
Oui.
Tu veux dire?
Ah, puis ceux qui flashaient pas le lumière, là, ils étaient le nez dans la fenêtre pour voir les autres flasher les lumières. Fait que tout.
Exact.
On regarde, ça va-tu marcher? Ça va-tu? C'était phénoménal. Mais c'est une autre génération. Ça a comme ralenti, là, un peu. Là,
maintenant. Mais je te suivais.
Merci. On est maintenant dans l'époque Netflix. Et
oui.
Tu veux me parler d'augmentation de prix? Oh, attention,
oui.
Les gens n'aimeront pas ça. On a besoin de Netflix, là,
pandémie. Mais si t'as le forfait familial, ce que t'as peut-être pas, mais le forfait familial, tu sais, il y a 3 forfaits chez Netflix.
Ouais.
T'as un forfait de base, tu sais, qui te permet de brancher un écran. T'as un forfait de 2 écrans, puis t'as un forfait à 4 écrans. Et là, Netflix s'est rendu compte qu'il y avait des bougons du Netflix.
Ah ouais, regardons.
Tu sais quoi, des bougons du Netflix, Sylvain?
Ben, ils doivent vendre leur forfait aux autres.
Non, non, c'est des familles qui se regroupent à 2-3.
Ah, OK.
Tu payes un forfait. Comme tu payes un peu partout parce que tu as le droit d'écouter ton téléphone cellulaire chez ton ami ou peu importe, il y a beaucoup de familles qui faisaient ça. Alors, Netflix a déplacé le forfait premium, disons, en annonçant ce matin par courriel à des gens. Écoutez, vous allez payer 2$ de plus pour votre forfait familial ou premium, ce qui a un peu de sens, dans le fond, si tu veux que ton prix reflète. Mais il y a autre chose, Sylvain, derrière ça. Il y a bien d'autres choses que le forfait. Il y a la pression des actionnaires. Parce que si vous regardez les états financiers de Netflix que vous avez présentement, il va y en avoir d'autres demain soir, là, mais ceux qu'on a du mois de septembre, ça nous dit une chose. On fait 18 milliards de revenus pour 9 mois. On fait 2 milliards de profits. Mais on a un ratio d'endettement de 73%. Avec Netflix, là, dans le moment, Sylvain,
hey,
se retrouve dans le fond à pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour s'endetter davantage pour produire des séries développées. Peut pas non plus aller chercher nécessairement. Oui, il peut émettre du capital, mais à un moment donné, il faut que ça rapporte. Les ratios sont élevés. Et donc, oui, on a fait de l'argent en 2015, là, puis aujourd'hui, l'action est passée de 55$ à près de 500$. Donc, on s'entend, là. 10 fois, là, ou 9 fois, disons. C'est quand même un multiple incroyable. Mais maintenant que tu as des actionnaires qui ont payé l'action 400, 450, 490$ l'action, et là, t'as pas le choix d'avoir une stratégie qui est aussi aller chercher du prix. Et là, le problème, c'est que t'as les concurrents. Les concurrents, Sylvain, ils sont bien arrangés.
Crave,
Disney n'a pas juste Disney+.
Ouais.
Apple, c'est dangereux. Tu le dis, là, Apple, dans le modèle d'affaires, je ne vois pas un joueur aussi dangereux qu'Apple présentement.
Mais ils font quoi, Apple, nous autres?
Apple, dans le moment où tu payes une coupe de 10$ par mois, t'as la musique, t'as les films, t'as Apple Fitness, t'as le stockage de données. En fait, t'as tout. C'est une famille de base qui se dit, j'ai mon Mac, mon iPad, ma montre puis mon téléphone. Prends l'abonnement mensuel à Apple et va avoir les séries avec ça. Et donc, chez Netflix, on n'a pas cet avantage-là de vendre du multiplateforme, du multi, disons, objet.
Amazon peut faire ça aussi. Ils ont Amazon Prime,
Amazon
mais ils ont aussi
ça.
Amazon, bon, la vente de plein de bebelles, etc. Fait que c'est vrai que quand tu luttes contre Amazon, Disney, Apple, toi, t'es comme Netflix. Qu'est-ce que t'as d'autre que des séries? Rien.
Ben, t'as Crave aussi qui est dans le fond BCE, t'as HBO, t'as tout ça ensemble. Là, t'as Disney+, Apple TV+, puis là, t'as Netflix qui a pas la diversification. Donc, Netflix doit réussir à offrir aux créateurs le meilleur deal pour attirer les séries exclusives, parce que maintenant, c'est ça que ça te prend. Ça te prend la série que tout le monde veut regarder pour qu'il s'abonne à ton canal de distribution. Mais là, il y a tellement de concurrence qui s'en vient qu'il y en a qui vont faire une guerre de prix, là, c'est sûr. Maintenant, la game chez Netflix, c'est de réussir à maintenir des prix plus élevés tout en offrant une tellement plus grande valeur que les gens suivent quand même. Et d'ailleurs, quand tu vas sur le site de Netflix, regardez qu'est-ce que les investisseurs veulent et qu'est-ce qu'on regarde, Netflix dit, non, nous autres, là, on va augmenter le nombre d'abonnés et les prix. Et quand on regarde la croissance, écoute, en 2015, chez Netflix, tu avais 71 millions à peu près d'abonnés dans le monde. Puis aujourd'hui, tu frôles 200 millions, on va en savoir plus demain, là. Donc, tu es à 195 au troisième trimestre 2020. Donc, ça augmente là, quand même. C'est presque deux fois et demi, trois fois. Mais la question, c'est à quelle vitesse on peut maintenir ça? Parce que là, tu es un actionnaire. Tu regardes ça tranquillement, tu te dis, une minute, là. On est en pandémie. Les autres concurrents sont pas tous à maturité. On n'a jamais été autant confiné chez soi. On s'entend que la propension à t'adresser à un système comme ça est très grande. La seule chose qui s'en vient, qui n'est pas encore réglée, c'est le 1, c'est combien de personnes vont se débrancher? Combien de personnes sont encore inscrites au câble? Tu sais, le standard. Puis ils vont dire, non, moi, je me débranche, puis je m'en vais 100% abonnement. C'est là la croissance. C'est là qu'elle se situe. Te souviens-tu, Sylvain, toi qui as parlé de leur JMP tantôt avec Mercedes-Benz?
Oui, c'était ça, le nom Reg. Oui,
puis juste ça. À reprendre tantôt, c'était pas bel et bon, mais c'était beau et chaud, même Marc Lavrèche, on était plus loin encore. Est-ce que dans le temps, te souviens-tu qu'à l'époque, quand tu t'abonnais à un câble, fallait que tu payes par TV? Exemple, tu faisais rentrer le câble chez vous. Si t'avais deux TV, c'était plus cher que si t'avais une TV.
Je m'en souviens très bien parce que nous, on avait fait installer le câble en bas. On l'a eu tellement tard puis tout. Mais anyway, quand on l'a mis en bas, on payait pour deux TV. Absolument.
Tu sais que moi, à l'université, il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient, Sylvain? Je vais te le dire, là. Mais maintenant, j'ai plus honte de le dire que j'ai vu ça, là. C'était des amis à moi que je connais à peine, Sylvain.
On n'a pas de nom.
L'appartement 1 s'inscrivait au câble.
Oui.
Et là, l'appartement 1 mettait un splitter, un séparateur. Puis là, on coupait ça avec des fils. Oh, excuse-moi. Les gens coupaient ça avec un fil et passaient le fil dehors et passaient par la fenêtre dans l'appartement d'en haut. On multiplie. Tu sais, à l'époque, c'était pas numérique, là. No. On pouvait faire des choses vraiment inventives.
On n'a jamais fait ça sur la rue de la Bretagne. Sur la rue de la Bretagne, à Jonquière, on était trois dans un sol. On n'a jamais... Regarde, j'ai mes X, là. C'est correct? Hein, on se croise les... dans ce temps-là. Alors, j'ai mes X.
Non, on travaille pour Cogeco, mais il faut avouer qu'à une autre époque, là, c'était chose commune.
Oui, les gens faisaient ça.
Alors, le Netflix multifamilial de l'époque, Sylvain, c'était le splitter son corps.
Exactement. Mais je pense
il y en avait des plus gratteux, il allait au voisin. Il faisait même chez le voisin à 15-20.
Non, mais nous autres, on était dans un sous-sol, là, trois étudiants pauvres. Tu sais bien qu'on ne payait pas pour trois TV. Là, à un moment donné, là, tu pognes le câble puis tu l'étires un peu. Je pense que
j'ai pas entendu ça, Sylvain. Je pensais que tu étais honnête.
Non, mais j'ai dit peut-être qu'on l'a fait.
Oui.
J'ai dit peut-être.
C'était ton coloc.
C'est ça. Moi, j'étais une victime. Je m'occupais pas de ça, moi, le câble, partout. Parle-moi de l'entrepreneuriat.
Oui.
Un peu les limites de la valorisation de l'entrepreneur.
Tu sais qu'on est très entrepreneur, même à Québec, là. On s'entend que la Beauce, c'est comme la mecque de l'entrepreneuriat au Québec. On s'entend, là, quand tu parles de la Beauce, de l'école de l'entrepreneuriat, de la Beauce et tout ça. Et là, je voulais apporter un petit bémol. Un petit bémol de réalité. C'est-à-dire que présentement, dans les médias, on a passé des années à se voir en salarié, puis bon. Et là, il y a comme une espèce de d'aura entrepreneuriale. Et on valorise beaucoup l'entrepreneur. L'entrepreneur est devenu le nouveau curé de la place. Et là, l'entrepreneur dit qu'est-ce qu'il pense, et c'est la bonne nouvelle, tu comprends? C'est la grande parole. Et là, il donne un conseil par jour. Moi, j'ai réussi, voici comment j'ai fait. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle avec l'entrepreneur, Sylvain? Ouais. On en est tous un peu un quelque part, on a notre modèle d'affaires. Mais l'entrepreneur te dit toujours comment il a réussi, mais peut pas te dire qu'est-ce qui va marcher. Donc, il va dire, par exemple, « Hey, moi, j'ai fait telle affaire, ça a fonctionné, regarde comment je suis bon. » OK? C'est quoi la prochaine affaire dans laquelle il faut que j'investisse pour être sûr de faire de l'argent? Je sais pas, j'ai pas une boule de cristal. Aha! Et donc, dans l'entrepreneuriat, Sylvain, il y a des choses importantes comme le timing, l'argent, puis la bonne idée, puis le facteur chance. Et ça, j'aimerais ça que, un moment donné, il y ait un entrepreneur sur Instagram ou sur Facebook qui dit « Hey, la première affaire que ça te prend, c'est une bonne idée. La deuxième affaire, ça te prend de l'argent. La troisième affaire, ça te prend de la chance. »
Non, mais ça, tu gagneras pas. Je l'ai déjà eu, cette discussion-là, moi. Pis,
pour vrai?
Mais j'étais avec des entrepreneurs, pis, sérieusement, puis je leur rendais hommage, puis c'était une super bonne discussion. Puis bon, à quel point ces gens-là ont travaillé, ils ont eu des bonnes idées, puis sont méritants. Puis moi, j'ai passé ma vie à défendre ça un peu, alors qu'au Québec, les gens qui réussissent souvent sont jalousés, l'argent. J'ai jamais toujours eu le même discours de défendre ça, la réussite, mais j'ai juste inséré dans mon discours que faut reconnaître, bon, qu'il y a un peu de chance. Et ça, quand tu dis ça dans le monde des affaires, mais tu sais, j'avais fini mon argument en disant, ben juste le fait, on s'était même pas pogné, mais je discutais avec quelqu'un qui lui disait qu'il avait zéro chance dans sa réussite. Mais j'ai dit, t'as pas pogné le cancer, tu t'es pas fait frapper par une voiture, t'as pas juste ça, je m'excuse.
C'est t'as pas eu la poursuite chance d'un client, t'as pas, tu sais.
Ben non, mais, mérite, mais c'est un peu de la chance là.
Mais je vais donner un exemple.
Mais j'enlève rien à sa réussite là.
Non. Mais prends les dragons. Alexandre Taillefer, c'est New Run, un de ses bons succès. Il y a eu Stingray après ça qui est sorti avec une diversification, disons, d'opinion, divergence d'opinion. Là, il y a l'autobus Lyon qui est payant, planté dans Théo Taxi. T'as Serge Beauchemin qui a fait de l'argent avec des logiciels à une autre époque qu'on n'offrait plus aujourd'hui. François Lambert qui a fait de l'argent avec quoi? Avec un centre d'appel. On s'est entendu qu'un centre d'appel en 2021, ça fonctionnerait pas. Donc, il y a une question de timing d'une époque. Nicolas Duverneau est étudiant à l'UQAM, le balai des planchers, je vais me lancer dans votre cas après un échec. Ben, il y avait un restaurant, il a investi, il s'est planté, mais il a vu que ça vendait de la vodka, puis il y a une histoire de storytelling, il a gagné un concours, mais tout ça, c'est du travail, c'est du stress, c'est des nuits à pas dormir, puis c'est mettre l'avenir de ta famille en jeu. Là.
On leur enlève rien.
Mais au bout du compte, ça prend à quelque part la chance. Puis moi, je trouve que le prochain discours que j'aimerais entendre, c'est de dire investis-toi, mais ça te va te prendre la chance. C'est pas juste du travail. Puis ça, c'est l'autre affaire aussi qu'il faut amener. Des fois, faut arrêter de se battre pour un modèle d'affaires où tu arrives à peine. Et Sylvain, ce matin, je parlais un exemple que Shopify Capital, Shopify, tu connais-tu?
Oui.
Shopify, bon, eux, ils financent les entreprises. Mais sais-tu comment ils financent les petites PME qui commencent? En disant, je vous charge pas de l'intérêt, moi, là. Non. Je vous charge un montant fixe sur le montant que je vous prête. Et tu me rembourseras en pourcentage de tes ventes. Exemple. Shopify Capital va te rembourser, va te demander, je te prête 7 000, 8 000, mais rembourse-moi à 10 % de tes ventes jusqu'à temps que tu m'aies remboursé. Puis là, tu te rends compte que, mettons, je sais pas moi, il y avait une couple de cent d'intérêt là-dessus, tu le rembourses en une couple de semaines, finalement, ton taux de financement est 30-40 %. Puis là, tu te dis, crime, je suis en train de payer ce taux-là, j'arrive à peine, ma business fonctionne pas. Puis tu te dis, comment ça fait que je suis obligé d'aller là? Mais c'est parce que ton modèle d'affaires, es-tu assez bon pour intéresser des investisseurs? Si la réponse, c'est non, mais Shopify peut en profiter pour dire, moi, je vais aller chercher l'argent qu'il allait chercher avec toi, puis tu n'auras pas le choix d'emprunter avec moi, tu t'en rendras compte, mais ton taux d'intérêt va être très élevé. Donc, c'est un exemple de dire, il y a des gens aussi qui s'acharnent dans un modèle d'affaires qui ne fonctionnera peut-être pas à long terme et qui est basé sur une expérience court terme. Et quand tu n'as pas d'enfant, tu y penses peut-être même. Quand tu as des enfants, tu dis... Est-ce que je suis en train de prendre le risque de ma famille, oui ou non? C'est une question.
Le timing. Merci, Pierre-Yves. Ah oui. Merci beaucoup. 17h02. Je me souviens d'avoir... c'est un sujet qui m'intéresse, ça, mais je veux rien en... J'enlève tellement rien. Puis quand je parle de chance, c'est peut-être 5 % peut-être que c'est 10 % ou je sais pas, ça dépend des cas. Là. Mm-hmm. La majorité, moi, je donne ça. C'est pour ça que je veux qu'ils baissent les impôts. C'est pour ça que je veux qu'on respecte les gens qui réussissent, qu'on s'en inspire au lieu des jalousés. Parce que c'est beaucoup de travail, de créativité, de timing et tout. Mais je donne souvent l'exemple suivant. Sidney Crosby, il est chanceux. Hey, là, le monde, le bout, tu nous aides. Là. Nous autres, on dit qu'il n'y a pas de chance. Voyons donc, ce gars-là, là, jeune, là, enfant, là, tout le monde le connaît, l'histoire dans sécheuse, là, qui envoyait des pocs dans sécheuse. Il a travaillé toute sa vie, puis il a du talent. Alors, talent et travail. Il a zéro chance, il n'a pas gagné à l'auto, Sidney Crosby. Ouais, je sais. Mais s'il était né en 1930... Il aurait fait une carrière de hockey, il aurait été le meilleur, puis il aurait livré de la bière l'été. Mais Sidney Crosby n'a pas décidé de l'année où il est né. Il est né à une époque où les joueurs de hockey sont les mieux payés de toutes. C'est comme ça. On a décidé, puis parce que leur talent, parce qu'ils se sont révoltés contre les boss, à un moment donné, ils ont dit, garde, c'est nous autres. J'ai rien contre ça. Mais il y a un aspect chance là-dedans.
Définitivement.
Si le talent de Sidney Crosby... ça aurait pas été le hockey, ça aurait été autre chose qu'aujourd'hui. C'est
dévalué, là.
Ben, s'il avait été écrivain, Sidney Crosby, ben là, on remonte, là. Au 19e siècle, un écrivain, c'était millionnaire. L'équivalent d'eux, notamment en Grande-Bretagne, était tellement bien vu, les écrivains étaient riches. Aujourd'hui, les écrivains sont pauvres et les joueurs de hockey sont riches. C'est pas Sidney Crosby qui a décidé ça.
Non.
J'en veux pas. Lui, son talent, c'est joueur de hockey, multimillionnaire. Mais alors, l'époque où tu nais, ce que l'époque valorise en termes de rémunération, c'est pas toi qui as décidé ça.
Puis ton talent aussi. Talent, toi puis moi, c'est beaucoup de génétique, là, on s'entend. Là.
Aussi.
C'est pas toi qui as choisi ta génétique.
Alors, quand il est né, Crosby, il est né à une époque où les joueurs de hockey étaient les mieux rémunérés. Et il est aussi né avec des gènes que ses parents y ont donnés, qui avaient du talent. Ça y enlève aucun mérite pour tout le reste de son travail. Mais il y a un peu un aspect chance là-dedans.
Absolument.
Si vous le reconnaissez pas, je garde. Pareil pour les gens dans le monde des affaires aussi. Vous avez eu une idée. Peut-être que cette idée-là, vous l'avez 20 ans, vous aurait permis d'être milliardaire. Mais si vous avez eu l'idée deux semaines après l'autre, tu sais, quelqu'un qui a peut-être eu l'idée de Netflix trois semaines avant que l'autre parte. Mais Là, il y, y a un peu de... Ouais, mais c'est non, l'autre a été meilleur. Ben, meilleur, peut-être pas, là, rendu là. T'sais, il y a des facteurs indépendants, ne serait-ce que la santé, ne serait-ce que votre environnement. Puis une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'on les rabaisse? Ça veut-tu dire qu'on les respecte pas? Zéro point barre. Mais ça revient au partage. Ce que la grande majorité des hommes et des femmes d'affaires font déjà. Reconnais qu'il y a une partie de chance dans ton succès, puis redonne aux autres. Chez les Juifs, c'est 10%. Ça s'appelle Atsedaka. C'est dans leur... Alors, eux, si tu as du succès en affaires, un peu comme chez les protestants, chez les Juifs, c'est pas mal vu d'avoir du succès en affaires. Mm. Pas du tout. Ça, c'est très petit québécois. Là. Malheureusement, on essaie de se débarrasser de ça. Dans la communauté juive, le succès en affaires est pas mal vu du tout. Mais reconnaissant qu'il y a une part de chance et qu'il faut redonner à la communauté, tu dois donner 10%. C'est gros, là. Une fois qu'ils ont payé leurs impôts, là, c'est un 10% dans la religion que tu dois donner aux autres.